Les rendez-vous du Mondial du bâtiment
sur Bâti Radio.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bâti Radio. On va s'intéresser à un sujet brûlant, la formation et la reconversion, les métiers d'avenir dans le bâtiment. On sait, ces métiers sont nombreux, ils sont peut-être en pleine évolution aussi, beaucoup plus de technicité, on a besoin de bras, on en manque, alors il faut les former, il faut peut-être transformer les profils de certaines personnes. On va voir comment on fait, on réalise, on répond à tous ces défis avec nos experts sur le plateau. On est ravi d'accueillir Fabrice Gaillon. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Vous êtes directeur national du développement à l'AFPA. Bienvenue à vous.
Absolument.
À vos côtés, on accueille Marion Malandin. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et CEO, patronne d'Optimise Construction. Et enfin, Ariane Commande. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Vous êtes aussi CEO et cofondatrice de La Solive. On va démarrer par une présentation de vos différentes activités et métiers. Fabrice, on commence avec vous, directeur national du développement à l'AFPA. Là, on est au cœur du sujet, la formation.
L'AFPA est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. On forme et accompagne près de 150 000 personnes chaque année, dont 30 000 personnes dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, l'AFPA est au cœur des processus de transition, quels qu'ils soient, hein, que ce soit transition industrielle, on parle beaucoup de réindustrialisation, mais aussi beaucoup des transitions écologiques et énergétiques, et aussi des transitions managériales, parce qu'il y en a, quelques-unes. Donc très très engagé. Dès lors qu'on parle de transition, on parle bien sûr de reconversion, de changement, d'adaptation des métiers. Il y a des métiers qui ne changent pas. Par contre, les compétences évoluent. Et vous en avez, c'était votre introduction, donc très très engagé, mais très engagé aussi dans des mouvements de fond de la formation, notamment avec l'arrivée de France Travail. L'AFPA
France Travail, c'est nouveau dans le paysage, hein, ça va apparaître. On appelait ça NPE, puis Pôle Emploi, puis maintenant France Travail, ou c'est la réunion de plusieurs entités.
Je pense que France Travail, et en tout cas, ça a toujours été aussi l'ambition de l'AFPA, de travailler ensemble.
Oui.
Mettre en commun pour avoir un pouvoir collectif, et je crois que plus que jamais, et je suis sûr qu'on va en parler là, pour les métiers du bâtiment, tout c'est toute la nécessaire coordination, transversalité, interaction qu'on doit avoir. France Travail, c'est un peu ça, mais je pense qu'un bâtiment, c'est aussi un peu ça.
Ouais, c'est la réunion de toutes les forces, hein, en présence qu'il faut mobiliser. On passe à Ariane Commorne, donc cofondatrice de La Solive. Que fait La Solive ?
Alors, La Solive, on est une école et on est spécialisé sur les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, effectivement, on s'intéresse aussi à ces métiers parce que ce sont parmi tous les métiers du bâtiment qui sont en tension, il y en a beaucoup, plus spécifiquement ceux qui sont liés à la rénovation énergétique, pour une raison simple. Il y a une étude qui vient de paraître de France Stratégie qui dit qu'il manque d'ores et déjà 200 à 250 000 professionnels aujourd'hui dans la rénovation énergétique en France. Donc on sait que c'est un gouffre en termes de besoin de main-d'œuvre et de besoin de compétences. Et l'idée de La Solive, c'est de former également des personnes en reconversion, qu'elles soient issues du monde du bâtiment ou pas, aux métiers de la rénovation énergétique les plus en tension et de les accompagner jusqu'à l'emploi, mais avec ce focus spécifique sur la rénovation.
Oui, c'est colossal, hein, 200 à 250 000 personnes, c'est dire l'ampleur des chantiers. On finit notre tour de table avec Marion Malandin. Optimise Construction, un petit mot justement pour ceux qui ne vous connaissent pas.
Chez Optimise Construction, nous on fait de l'optimisation de matériaux. On travaille spécifiquement aujourd'hui sur le tri soudé, qui est l'acier qui est mis pour armer le béton au niveau des planchers et des murs. Et donc, la problématique, c'est que c'est un matériau qui est vendu en taille standard, donc qui va nécessiter d'être redécoupé sur chantier en suivant la forme des pièces ou des bâtiments. Donc, cette redécoupe, elle entraîne des pertes, beaucoup de pertes, puisque chaque année en France, c'est 18 fois le poids de la Tour Eiffel qui est jeté. Et donc, c'est là qu'on va intervenir. On va permettre, grâce à des algorithmes, d'économiser 15% sur les quantités de matériaux. Et après, justement, on a une méthodologie chantier, et c'est là, justement, on intervient sur la formation. C'est que on va accompagner au changement les personnes sur chantier à la mise en œuvre de notre solution. Avec, on reprend bien sûr le savoir-faire des compagnons et on met en place des outils qui vont se représenter avec des étiquettes, des plans de découpe qui vont permettre d'aller optimiser sur terrain.
D'accord, donc on voit bien, alors là on est dans le cœur du sujet, hein, mondial du bâtiment, avec effectivement ces matériaux hein, qu'il faut réutiliser, leur emploi c'est aussi au cœur du sujet. On démarre avec vous Fabrice, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui on entend des choses un petit peu contradictoires, il faut le dire. D'un côté, on a cette crise du logement où on dit, on a peut-être un secteur qui va perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Et de l'autre côté, on dit, pour tout ce qui est métier de la rénovation, etc., on manque de bras. Alors, on ne comprend pas, est-ce qu'il y en a trop ou pas assez, finalement ?
Alors, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a énormément de demandes aujourd'hui concernant et qui émanent des professionnels du bâtiment sur, bien sûr, les métiers traditionnels, parce qu'il y a des métiers qui ne changent pas. On continue à avoir besoin de plaquistes, de carreleurs, de maçons, de couvreurs zingueurs et autres. Et en même temps, parce qu'il y a des programmes de rénovation énergétique qui sont importants à mettre en œuvre, hein, les classifications F et G tombent, donc ça impose aux locataires, voire à certains bailleurs, de devoir rénover très urgemment leur bâtiment. C'est à la fois un levier et un frein hein, pour la performance du bâtiment. Et en même temps, une fois qu'on a, on va dire, levé le levier du financement avec la prime rénov et autres, il existe pas mal de dispositifs. C'est pour répondre à votre question.
Oui, pour contrer les passoires thermiques, effectivement.
C'est à ce moment-là qu'on a aussi besoin d'ouvriers qualifiés et d'ouvriers qui soient spécialisés sur la rénovation énergétique. Donc, nous, comme vous, on entend hein, le fait qu'il y a peut-être une crise du bâtiment qui a lieu. Et en même temps, on entend la demande récurrente de devoir former des professionnels du bâtiment et notamment des professionnels du bâtiment qui soient qualifiés pour la rénovation énergétique.
Bien sûr.
À l'AFPA, c'est 19 formations en tout pour les 17 travaux hein, qui sont finançables dans le cadre des différentes subventions qui existent.
D'autant que ce sont des métiers de plus en plus techniques. Hein. On va bien sûr dans la rénovation ou pour gagner effectivement en efficacité énergétique, installer des pompes à chaleur, on va mettre des panneaux photovoltaïques, on va faire des isolations toit-terrasse. Mmh. Bref, des métiers quand même assez techniques. Hein. Ariane, comment on convertit tout ce petit monde, on les fait peut-être monter en compétences?
Oui, alors c'est effectivement, il y a à la fois des nouveaux métiers qui émergent. Par exemple, on a besoin aujourd'hui de chefs de projet en rénovation énergétique. On a besoin de gens qui connaissent, qui comprennent les enjeux de la rénovation globale, performante, parce que c'est un nouveau marché qui émerge. Mais c'est en grande majorité, effectivement, je rejoins Fabrice, des métiers existants qui vont devoir évoluer. Donc c'est à la fois aller chercher des nouvelles personnes sur ces métiers existants et faire évoluer les formations, les référentiels de compétences pour répondre aux besoins. Et ce qu'on identifie par exemple comme en très forte tension, c'est, alors vous l'avez cité, sur les métiers du chauffage, on a aujourd'hui des plombiers chauffagistes, mais qui vont avoir besoin de compétences plus poussées sur notamment les systèmes décarbonés, la pompe à chaleur en premier lieu, mais ça peut également être le chauffage à granulés ou d'autres technologies qui aujourd'hui sont en plus forte tension. On a l'évolution par exemple du travail des couvreurs qui vont de plus en plus intervenir pour faire des isolations de toiture, le travail des plaquistes, vous en avez parlé, le travail des façadiers qui vont faire des isolations par l'extérieur. Et donc tous ces métiers-là évoluent. Et évidemment, ça devient nécessaire de pouvoir les former sur ces compétences qui sont particulièrement techniques parce que, d'une certaine façon, la rénovation énergétique, la rénovation est plus compliquée par certains aspects que le neuf, puisqu'on part de l'existant et que l'existant, il a sa complexité, il faut le comprendre, il faut s'adapter à l'existant.
Le transformer.
Et le transformer. Et la dimension énergétique est complexe aussi parce que il y a toute la partie thermique et la performance qu'on est en train de créer de l'enveloppe ou des systèmes qu'on installe qui est aussi une complexité supplémentaire par rapport à des rénovations qui seraient simplement esthétiques.
Aujourd'hui, ça veut dire que vous avez suffisamment de talent ou il faut encore une fois les faire monter en compétences? Peut-être il y a des gens, mais qu'il faut encore une fois upgrader, j'ai envie de dire.
Alors je pense qu'il y a deux leviers pour répondre à ce manque de main-d'œuvre. Il y a effectivement soit la formation des professionnels, c'est plutôt une formation complémentaire par rapport à la formation qu'ils ont déjà.
Mais ils n'ont pas beaucoup de temps.
Et ils n'ont pas beaucoup le temps. Et ça, c'est une des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, même voilà, les professionnels du bâtiment, globalement, ils ont un carnet de commandes qui est assez rempli dans la majorité des cas. Et consacrer quelques jours, une semaine ou plusieurs semaines de formation sans être sur son chantier, c'est compliqué. Et c'est du chiffre d'affaires en moins, donc c'est plus compliqué. Mais ils ont aussi des besoins de recrutement. Et c'est là où nous, par exemple, on intervient. Parce que on va former des gens qui sont éventuellement issus d'autres secteurs ou qui ont une première expérience. Par exemple, on peut former des plombiers ou des électriciens, mais aussi parfois des techniciens automobiles qui viennent d'autres secteurs pour les emmener vers, par exemple, l'installation de pompes à chaleur. Et ils sont ensuite recrutés dans des entreprises de chauffage qui ont besoin de recruter des installateurs de pompes à chaleur parce qu'ils développent cette activité.
D'accord. Chez Optimis Construction, vous êtes confrontés, on imagine, au manque de bras. Hein. On a envie, des fois, on peut avancer, vous avez peut-être des commandes, et puis c'est pareil, il y a un petit goulot d'étranglement.
Nous, de notre côté, en fait, on le voit surtout sur les chantiers où il manque beaucoup de manœuvres de leur côté parce que c'est eux sur chantier qui mettent en place nos solutions directement. Et on voit beaucoup de pénuries de manœuvres au niveau de tous les métiers. Mm-hmm. Donc, nous, on travaille particulièrement du coup avec les ferrailleurs qui sont sur chantier au niveau du béton. Et même là, on a un manque, en fait, de personnel. On en discutait avec des conducteurs de travaux qui me disaient, les personnes qui s'intéressent sur chantier, on les passe tout de suite chef d'équipe parce qu'en fait, on manque de personnes. Et finalement, ça se voit à tous les échelles puisqu'avant, on avait des personnes qui arrivaient, qui étaient, on va dire, novices sur les chantiers, qui montaient au fur et à mesure à force d'investissement. Et aujourd'hui, il dit, on se retrouve avec des personnes très qualifiées qui ne montent pas forcément parce qu'en fait, personne n'a encadré de l'autre côté. Et donc ça, c'est un besoin qu'on a. De base, dans le bâtiment, on a le problème de pénurie. Et en plus, avec l'arrivée des nouveaux métiers, on a besoin de plus en plus de personnes dans les métiers traditionnels, plus les métiers en changement.
Ouais, Fabrice Yagaron nous disait effectivement que on entendait des chiffres considérables, plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes qu'il faudrait pour embrasser cet énorme chantier de la rénovation. Comment on fait l'idée, c'est d'aller chercher aussi peut-être des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi à un moment.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, hein, vous l'avez dit à l'instant, et peut-être que je reprendrai le terme upgrader, puisqu'il s'agit peut-être moins de upgrader que à la fois de remettre à niveau les compétences ou de rajouter des compétences. En fait, juste une petite définition de la compétence c'est un objet vivant, oui. Ça vit, ça bouge, c'est pour ça qu'on est passionné par nos métiers de la formation, et les métiers du bâtiment n'y échappent pas. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être moins des nouveaux métiers que de nouvelles compétences qu'il faut mettre en œuvre. Donc on a un travail permanent avec les salariés du bâtiment pour justement actualiser ces compétences qui sont des compétences techniques, mais on pourrait aussi parler des compétences services, puisque bien souvent aussi les professionnels du bâtiment interviennent auprès des particuliers. Et toujours dans cette évolution.
C'est quoi la différence juste pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, compétences services, ça correspond à quoi?
Les compétences services, c'est dès lors qu'on intervient chez un particulier, le particulier, lui, il s'attend à un service. Il s'attend à avoir une relation positive avec la personne qui le reçoit, et la personne qui intervient sur un chantier, l'ouvrier, a aussi envie de rendre un service. Il y a une mission très noble dans les métiers du bâtiment. Les professionnels du bâtiment sont un petit peu des constructeurs de bonheur. Ils construisent des appartements, des maisons dans lesquelles les gens, ils ont envie de fonder une famille, de vivre leur vie, donc ils ont une responsabilité énorme. C'est ça la qualité du service. Et je pense que cette qualité de service, elle est très présente chez les professionnels du bâtiment. Mais à un moment donné où on parle beaucoup des savoir-être, de ce qu'on appelle les soft skills en anglais, parlons des savoir-être. Cette question-là des savoir-être est aussi importante. Nous, on a beaucoup de professionnels du bâtiment qui nous disent on veut les meilleurs formés techniquement, mais on veut aussi les personnes avec qui on a envie de travailler. Le problème, c'est que dans une période de tension sans pareil sur les métiers, l'inverse est vrai. Donc, il s'agit aussi de travailler sur le management et de savoir accueillir l'ensemble des nouveaux arrivants. Et ça, ça répond aussi à votre question.
Puisque je vais être un petit
derrière
peu...
la question du sourcing, il y a toute la question de l'attractivité des métiers. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre attractifs les métiers ? Dans une période où, pour les jeunes générations, la question de la transition écologique est aussi importante, revendiquer la participation, la contribution des professionnels du bâtiment à la transition écologique, à la rénovation énergétique, c'est déjà un facteur d'attractivité. Mais la manière dont les professionnels du bâtiment managent et accueillent les jeunes, c'est aussi une manière de générer de l'attractivité. Et pour répondre à votre question, en fait, aujourd'hui, la question est beaucoup la reconversion, hein, c'est-à-dire comment une personne qui a eu un premier métier, comment on se sert de ses compétences pour pouvoir la faire évoluer vers une autre compétence. Quelqu'un qui a appris à lire des plans dans l'industrie, il est extrêmement utile dans le bâtiment, parce que cette compétence, elle est transposable dans le secteur du bâtiment. Le problème, c'est que l'inverse est vrai aussi. Donc, il y a un grand mercato, là, en ce moment, dans une période de tension sur l'emploi. Et après, c'est bien évidemment les premiers niveau de qualification, les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et là, je pense qu'il faut aller vers. Il faut aller vers les jeunes. Ils sont pas invisibles, hein, ils sont bien là. Hein. Donc, préférerais les appeler, les empêcher, mais aller vers eux pour pouvoir leur présenter les métiers du bâtiment.
C'est vrai qu'il y a un gros travail de pédagogie sur l'attractivité, hein, de ces métiers.
Je suis complètement d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a des mutations dans le secteur du bâtiment qui font que voilà, les choses, on sent que les choses sont en train de changer. On a de plus en plus de candidatures de gens qui veulent aller vers ces métiers. Donc c'est quand même le signe que voilà, l'image est en train de changer. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur l'importance de bien accueillir ces personnes, de faciliter leur intégration. Et pour donner quelques exemples de la façon dont on peut justement transposer des compétences d'autres secteurs, nous on a des gens par exemple en formation je pense à une personne qui était électrotechnicien dans l'automobile et qui connaît cette technicité, qui connaît à la fois les compétences, qui a des compétences en électricité, qui a des compétences techniques et qui a la rigueur de travailler sur des chaînes de montage automobile. Et là, il s'est formé chez nous pour devenir installateur de pompes à chaleur. Oui. Il a pu réutiliser certaines de ses compétences. Il en a appris des nouvelles, notamment sur les dimensions de plomberie et sur la manipulation des circuits frigorifiques. Ça, c'est nouveau. C'est évidemment, il se challenge sur cette partie-là. Mais il a aussi le sentiment de pouvoir réutiliser des compétences. Et voilà, et à la fin de sa formation, il part en alternance dans une entreprise. Et il a été très apprécié parce que il apporte aussi la rigueur qui vient de l'industrie et qui est tout à fait transposable dans le bâtiment.
Fabrice.
Oui, et pour aller dans ce sens, dans la période post-Covid, on a eu énormément de personnes issues du tertiaire, des informaticiens, des commerciaux, des gens qui travaillaient au 25e étage d'une tour à la Défense et qui ont choisi d'aller vers le bâtiment pour aller aussi retrouver, on va dire, du sens à leur travail.
Ouais. Hein,
Et je pense que c'est une des choses que peut proposer le bâtiment, c'est dans les gènes du bâtiment, de proposer aussi du sens au travail.
Quelque chose de très pratique, effectivement, se dire finalement, bon, au moins on voit ce qu'on fait.
Vive les métiers de l'intelligence de la main.
Ouais. Et on sait ce qu'on a fait à la fin de la journée quand vous avez un propriétaire qui vous dit « Ma maison était une passoire, elle était invivable, mes enfants avaient du mal à respirer et maintenant elle est belle, elle est agréable à vivre, ma vie a changé, vous avez changé ma vie ». Enfin, c'est quand même, c'est parfois quand on a passé dans son boulot précédent des journées à regarder des tableaux de chiffres, il n'y a pas de souvenir.
Ou des heures en réunion.
On est content d'avoir eu cet impact.
Bon, comment ça se passe chez Optimis, justement, sur ce volet-là de formation, peut-être de reconversion ? Vous avez des exemples concrets ?
Nous, on n'a pas forcément d'exemple directement au niveau de la reconversion. Je vais prendre un exemple en parallèle parce que nous, on a une entreprise de gros œuvres familiales aussi à Bordeaux, au niveau du gros œuvre. On a une vingtaine de compagnons. Il se trouve que au début, on était spécialisé dans la partie logement. Donc, on faisait beaucoup de logements. Et en fait, il y a 5 ans, on a reconverti la plupart des compagnons. On les a formés sur la pierre de taille. Aujourd'hui, on a plus de la moitié en fait de nos marchés auxquels on répond, qui sont des chais viticoles.
D'accord.
Qui permet en fait d'adresser un nouveau marché. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, toute la partie logement, c'est des métiers qui sont assez difficiles parce que beaucoup de cadences en fait sur les chantiers. Donc ça peut être très compliqué pour les compagnons au niveau de la cadence. Et donc on est allé, comme c'est des compagnons qui ont beaucoup de savoir-faire, on a décidé de changer et de s'orienter vers du coup des chais viticoles où il y a beaucoup plus de rénovation de façade, il y a du travail de la pierre qui est très intéressante et très valorisée. Et du coup il y a eu tout ce changement-là qu'on a mis en place en formant du coup les compagnons sur ces métiers. Et finalement, on permet d'évoluer et de travailler aussi de façon différente.
Alors justement, Marion, vous avez évoqué la pénibilité de certains métiers ou de certaines tâches. Et c'est vrai que ça peut rebuter une partie de la population. Alors sur ce plateau, on est à parité, mais dans le bâtiment, ce n'est pas souvent le cas. Ariane Commande, je voudrais avoir votre sentiment sur, effectivement, la parité, on n'y est pas, hein, homme-femme. Et pourtant, ce sont des métiers accessibles aujourd'hui à la gent féminine.
Alors, ce sont vraiment des métiers accessibles. Nous, c'est une de nos missions, on l'a mis au titre de nos missions, contribuer à la transition du bâtiment, mais aussi à sa féminisation. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une première chose, c'est que, en tout cas dans les métiers auxquels nous on forme, il n'y a pas, non seulement il n'y a pas d'obstacle à recruter des femmes, mais en plus de ça, il y a une vraie appétence des chefs d'entreprise à recruter des femmes, parce que les quelques femmes qu'on retrouve dans les métiers qui sont les métiers de la couverture, de l'isolation ou les métiers du chauffage, sur les métiers qu'on traite, sont très appréciées parce qu'en général, elles sont particulièrement performantes et qu'elles apportent aussi un regard nouveau sur les chantiers. Et donc, en fait, les chefs d'entreprise sont plutôt friands. Donc, en fait, nous, les femmes qu'on forme, elles trouvent presque plus facilement un emploi que les autres. La difficulté qu'on rencontre, c'est plutôt de susciter les vocations chez les femmes. Et on arrive, aujourd'hui, on a 30% de femmes dans nos cursus plutôt de cadres, de chefs de projet ou de technico-commerciaux. En revanche, dans les cursus de techniciens ou d'ouvriers qualifiés, là, on peine vraiment à aller chercher des femmes. On reçoit quasiment aucune candidature de femmes. On essaye, quand on en reçoit, de vraiment les accompagner, les coacher pour leur dire qu'elles ont toute leur place dans ces formations. Mais force est de constater qu'on n'est pas encore au bout de cette évangélisation.
Ouais, mais ils n'y pensent pas forcément. Comment on fait à l'AFPA pour faire la promotion de l'égalité homme-femme?
Je vais juste reprendre juste le début de la question sur la question de la pénibilité. Hein. On sait qu'il y a de la pénibilité, mais on sait aussi qu'il y a des logiques de reconversion. L'AFPA a créé pour le ministère du Travail le titre professionnel chargé d'accompagnement en rénovation énergétique du bâtiment. Il y a des professionnels du bâtiment qui peuvent aller vers ce métier dès lors qu'il peut avoir soit une incapacité, soit un désir d'évolution. Et aussi, on recrute des formateurs. L'AFPA recrute beaucoup de formateurs. Et l'exigence, quand on est formateur à l'AFPA, c'est de justifier de 50 pratiques professionnelles. Donc, on a beaucoup de professionnels du bâtiment.
Ce sont les pros qui font former les futurs pros.
Ensuite, à arriver à 45, 50 ans, se destinent vers la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de recrutements de formateurs dans tous les secteurs du bâtiment. Sur la question de la... Alors, on parle de féminisation. Nous, on préfère parler de dégenrification. Parce qu'il y a des métiers qui, effectivement... Je ne sais pas ce que ça veut dire, féminiser un métier, mais il y a des métiers où on doit attirer des femmes, mais il y a des métiers aussi où on doit attirer des hommes.
Hein, Lesquels, par exemple?
Auxiliaire en puériculture, qu'on appelle souvent auxiliaire puéricultrice. Hein, sur c'est auxiliaire vrai. En puériculture, je sais pas, il doit y avoir 99% de femmes. Si on veut changer le regard, il faut aussi commencer très tôt, et ça se passe aussi dans les crèches. Donc si on revient à notre sujet, comme vous, hein, comme la Solive, l'AFPA accueille de plus en plus de femmes sur les métiers du bâtiment. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut regarder du côté des exosquelettes, puisque les exosquelettes sont de vrais moyens, d'abord de travailler sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, mais aussi de renforcer la qualité au travail, mais aussi de faire des gains de productivité. Donc je pense qu'il y a un sujet sur les exosquelettes. On en parle beaucoup dans l'industrie, on en parle beaucoup dans les métiers de l'agriculture, on commence à en parler dans les métiers du bâtiment. Et pour ce qui concerne les femmes, nous, notre travail, c'est de travailler avec les professionnels. Et je vais donner un exemple, le centre d'information des femmes et des familles. Quand on travaille travaille avec le Centre d'information des femmes et des familles. En fait, on travaille sur des groupes de femmes qu'on emmène sur nos plateaux techniques. Les plateaux techniques de l'AFPA, on reconstitue des situations professionnelles. Et à ce moment-là, les femmes qui sont très éloignées de l'emploi se rendent vraiment compte de la réalité d'un métier. Et en gros, l'idée, c'est de faire la chasse aux stéréotypes, aux préjugés et autres. Mais ça s'accompagne. C'est clair, ça s'accompagne. Mais c'est comme pour tout le reste. C'est comme pour tous ces jeunes qui, forcément, ne se destinent pas au métier du bâtiment. Dès lors qu'on permet la rencontre avec la réalité du métier, qu'on peut toucher, ça c'est important. D'où l'importance aussi des programmes de pré-formation, de découverte des métiers, de tous les SAS, les préparatoires opérationnels à l'emploi. Je crois que Constructis fait un gros travail sur ce sujet-là. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur France Travail, mais la coordination de tous ces acteurs permet d'être cohérent dans la manière dont on accompagne les personnes vers les métiers, notamment les métiers en tension.
Oui, on a l'impression que c'est vraiment un enjeu aussi de pédagogie, vraiment de faire savoir hein, que ces métiers, voilà, c'est pas l'image d'Épinal, on va transporter des sacs de ciment toute la journée. Il n'y a pas que ça, il y a des métiers extrêmement techniques, on l'a dit. Et c'est vrai qu'on le voit aussi au mondial du bâtiment. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui passent par là. On a les World Skills, effectivement, qui montrent aussi cette espèce de concours incroyable, des choses fantastiques. Il faut y passer. Chez Optimis Construction, on a quelques femmes.
Nous, on est à la parité. On a des femmes chez nous. Après, nous, on a moins de personnes qui sont directement sur le chantier.
Bien sûr.
Je vais rebondir aussi, parce que dans l'entreprise du coup de courtier familial, on a des exosquelettes et on n'est pas une très grande entreprise, donc c'est intéressant aussi de se dire on a des personnes qui ont des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques. On a pu mettre en place des choses aussi pour rendre le travail accessible, et c'est pas réservé que aux grandes entreprises. Et ça aussi qui est intéressant, c'est que le bâtiment, il est en mouvement.
Ça veut dire que c'est accessible aussi au niveau des outils, l'exosquelette. Voilà, c'est pas une espèce de robot qui vaut des millions d'euros. Ça peut être des choses simples, mais qui aident au quotidien.
Parce qu'il peut y avoir certains métiers qui vont nécessiter de garder les mains surélevées au-dessus des épaules pendant une durée assez longue, ou des éléments comme ça. On peut s'aider d'exosquelettes, et ça veut pas dire, comme on dit, complètement un robot à part entière, mais juste des fois ça se noue autour du dos, ça aide au niveau de pour lever les bras. Enfin, c'est des choses assez sur des mouvements assez répétitifs, sans tout de suite passer par du robot, on va dire, à grande échelle, et c'est accessible financièrement. Et de l'autre côté, comme on dit, sur les chantiers, on pense beaucoup en fait que le bâtiment, c'est beaucoup de pénibilité, mais il faut savoir qu'on a énormément d'outils de levage. Et en fait, sur le chantier, il y a beaucoup de coordination. On passe du temps en fait à accrocher des éléments, à les monter avec la grue, à utiliser des élévateurs. On fait en sorte, en tout cas, de limiter au maximum le moment où les personnes vont porter eux-mêmes sur le dos les matériaux. Donc ça, c'est aussi important. Et on a beaucoup, comme vous dites, on a beaucoup de clichés un petit peu où on pense que il y a beaucoup de pénibilité, et le métier change beaucoup sur finalement de la coordination de matériaux, enfin de matériel de levage.
Donc on voit aussi que Rennes, c'est un souci d'image hein, finalement. Des métiers qui n'ont pas bonne presse, entre guillemets, il faut changer aussi cette perspective.
Alors moi, pour apporter peut-être une nuance par rapport à ça, c'est que je pense que c'est très important d'insister et de communiquer sur les valeurs de ces métiers, comme on le disait, l'impact qu'on a sur la vie des gens, la technicité de ces métiers, l'inventivité qu'il faut quand on est confronté à un problème, et aussi tous les outils qui existent pour réduire la pénibilité. Et je rejoins tout à fait Marion, il y a y compris dans la rénovation et y compris dans l'existant, on peut utiliser des outils de levage pour éviter de porter des charges lourdes. Il y a des solutions pour le travail en hauteur, pour limiter les risques drastiquement. En revanche, nous, on est très, très soucieux, quand on admet des gens en formation, parce qu'on a eu le cas, de leur faire comprendre exactement la réalité du métier avant de s'engager dans leur reconversion. Par exemple, quand on décide de se réorienter vers un métier, par exemple, dans l'isolation par l'extérieur, il faut quand même avoir conscience qu'on va travailler en extérieur, par différentes conditions de météo. Donc, il faut avoir
et en altitude.
Et en altitude et en hauteur, travailler en hauteur. Par exemple, là, on va former des installateurs de panneaux solaires. Ouais. Voilà, si on veut travailler sur des toits, il faut pas avoir le vertige, ou faut l'avoir traité. Donc, il y a quand même des composantes dans ces métiers qu'il faut bien prendre en compte. Et je pense que ce qui est fondamental quand on communique et qu'on veut changer l'image de ces métiers, c'est évidemment de le rendre positif, mais pas de vendre des grands rêves et surtout de faire tester les métiers aux gens avant qu'ils s'engagent dans le processus de reconversion.
Mais d'ailleurs, je crois que l'un et l'autre, vous êtes dans des procès. Alors, vous disiez, vous mettez les gens en situation, et vous aussi, vous avez des sortes de bootcamp, c'est ça?
Oui.
Vous les mettez eux également en situation, ils peuvent tester vraiment ce que c'est.
Oui, alors dans toutes les formations, de toute façon, il y a une dimension pratique. On a aussi des plateaux techniques, parce qu'évidemment, on considère que dans des métiers techniques, il y a des choses qu'on peut apprendre. On s'appuie, on a quelques
outils. Ça ne s'apprend pas au
tableau noir. Voilà, ni au tableau noir. On a des outils de réalité virtuelle où on peut apprendre à, par exemple, se peaufiner sur faire des diagnostics énergétiques, des audits, en tout cas, s'exercer avec des outils informatiques. Mais à la fin, on doit quand même passer l'essentiel de son temps à pratiquer sur des plateaux ou sur des chantiers. Et voilà, et on propose à des gens qui sont en reconversion de venir, en tout cas, soit en immersion chez des entreprises partenaires, soit sur nos plateaux, pour se dire en une journée, je me suis quand même rendu compte si la technicité me plaît et si je me sens d'aller relancer ma carrière vers ce métier.
Oui, c'est vrai qu'il y a même des choses assez innovantes dans la réalité virtuelle qui commencent avec des casques, on peut s'immerger aussi dans la situation. Vous nous disiez aussi plateau technique, bien évidemment, pour tester, toucher du doigt, hein, sans enjoliver, évidemment, le métier, la réalité du métier, c'est important pour faire une bonne adéquation ensuite et que la personne se sente bien dans son futur métier.
Oui, un ensemble. Un lieu de formation, c'est un ensemble. Hein. L'AFPA a créé l'idée des villages des solutions pour pouvoir accueillir des entreprises d'insertion, des entreprises. Dans un village des solutions de l'AFPA, on pourrait très bien avoir la Solive et avoir un partenariat avec la Solive, mais aussi on a des entreprises. Et dans ces mêmes villages des solutions, on est capable aussi de mettre en place des incubateurs. Et en fait, c'est tout ce monde-là qui arrive. Je vais le dire, il y a un moment donné où la formation professionnelle, ça doit être un sport d'équipe. Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les métiers du bâtiment n'ont pas bonne presse. Je crois que le bâtiment a bonne presse. Je pense que c'est surtout aujourd'hui la méconnaissance qu'on peut avoir des métiers, et c'est la manière dont on présente les métiers dans le système scolaire et dans le système académique, où on a encore du travail à faire. Les profs ont un super boulot, mais je crois que là, sur la capacité à pouvoir communiquer sur ce que sont les métiers du bâtiment, c'est surtout cela, mais donc le bâtiment a quand même une très bonne presse, quoi. C'est heureusement qu'ils sont là. Encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a dit.
Oui, mais c'est que vous avez raison. Ça démarre à l'école, où effectivement peut-être le travail manuel n'est pas suffisamment valorisé, alors que c'est des carrières passionnantes. Depuis que tout le monde n'est pas fait pour être effectivement derrière un bureau ou dans des réunions toute la journée. Oui. Voilà. Donc à un moment, il y a ça aussi. Comme on dit, il n'y a pas de saut métier, mais c'est vrai que longtemps, il y a eu un peu peut-être cette image d'Épinal qu'il faut casser et dire voilà, il y a des métiers passionnants, c'est technique, il y a des gens formidables, et en plus, c'est vrai qu'on en a besoin au jour le jour.
Et une chose qu'il faut ajouter, c'est des métiers où on peut très bien gagner sa vie. Mm-hmm. C'est pas vrai. Le cas de tous les métiers, mais un métier.
Oui. En tout cas, il n'y a pas de crise, un côté demande.
Voilà, oui. Côté de, on est sûr de trouver un job, ça quasiment, si on travaille bien, on est sûr de trouver un job, et on a la possibilité d'avoir soit des salaires très confortables, soit même à un moment de décider de se mettre à son compte.
Absolument.
Et ça, c'est quand même très attractif. On parle beaucoup des nouvelles générations qui ont envie d'indépendance, c'est des métiers qui le permettent.
Vous avez absolument raison. Et vraiment, je crois qu'il faut vraiment le redire. C'est vraiment des métiers où l'entrepreneuriat est possible et où on voit beaucoup de personnes qui, à un moment donné, se mettent à leur compte. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui viennent à l'AFPA et qui ont comme projet d'apprendre le métier, des informaticiens qui vont se dire, je vais apprendre le métier de couvreur-zingueur pour, à la fin, monter leur entreprise de couvreur-zingueur.
Non, c'est totalement vrai. Et je trouve que c'est... finalement, pardon.
Vous avez perdu, hein.
Oui, pardon.
J'ai dit. En tout cas, je trouve que c'est. Alors nous, c'est intéressant parce que sur Bâti Radio, vous pouvez retrouver les podcasts aussi avec les influenceurs maintenant des bâtiments. Ce sont des gens plus jeunes que nous en général, peut-être pas de ma marion, mais c'est vrai qui se mettent en situation et qui filment aussi. Alors ils se mettent en plus sur TikTok, sur Instagram. Ils font connaître les métiers. Il y a des stars d'ailleurs qui commencent à apparaître. On en a eu certains sur le plateau. Jean-Bernard Mellet les invite, sur l'antenne de Bâti Radio. Les retrouver, et je pense que ça aussi ça casse un peu, on sort du cadre, et ça c'est une formidable caisse de résonance pour tous ces nouveaux métiers.
Ça marche très très bien, et moi je suis effectivement les émissions de Jean-Bernard, parce que c'est toujours hyper inspirant de voir tous les corps de métier, ça peut être des carreleurs, des couvreurs, on en a parlé, des chauffagistes, etc., qui ont une approche de leur métier, qui montrent toute la force, tout ce qu'il peut avoir à la fois de passionnant, toute la créativité aussi qu'il faut pour exercer ce métier, tout d'un coup dans une difficulté. et tout aussi le sens du beau, de l'esthétique qui vient avec. On parle beaucoup du bel ouvrage dans le bâtiment, mais il y a quand même une fierté à réaliser des beaux ouvrages. Et le fait de pouvoir se plonger là-dedans à travers des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux, le fait de pouvoir se filmer très simplement pour le faire, ça marche très bien. Et ça aide aussi beaucoup de jeunes à se projeter dans ces métiers.
Bien, exactement.
Et justement, je vais rebondir sur ça. Je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, on parlait un peu de PowerPoint tout à l'heure. Sur les chantiers, on se retrouve toujours, en fait, on va avoir vraiment tout le moment terrain où on va avoir des problématiques et on va devoir les résoudre sur chantier en se disant, là, finalement, on va pouvoir faire ça parce que y a telle livraison qui a été décalée, comment on s'organise. Et il y a tout le temps, en fait, ce besoin de se renouveler en permanence. Ouais. Et ça, c'est vraiment
actif,
interne, en fait.
Ouais.
Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, on va se dire dans le métier, dans le bâtiment, c'est pas forcément comme ça. Et en fait, c'est un métier qui sollicite énormément au niveau intellectuel parce qu'on est toujours obligé d'innover, de se poser la question comment on va faire. Et c'est pas du tout, aucune journée, je trouve, se ressemble parce qu'on doit tous les jours réfléchir à comment on va s'organiser aujourd'hui, comment on construit, par où on commence. Et ça, je trouve ça très intéressant intellectuellement.
Voilà, des métiers en tout cas passionnants, on peut le dire, et on a cœur à le dire ici sur ce plateau en tout cas. Ces métiers dans le bâtiment, dans la rénovation, qui sont de plus en plus techniques, qui doivent se féminiser également, pourquoi pas. En tout cas, c'est accessible, mesdames. Si vous cherchez ou si vous êtes en reconversion, eh bien, pensez à ces métiers. Un grand merci à nos experts du jour, Fabrice Yeguaillan, directeur national du développement à l'AFPA, Marion Malandin, fondatrice et CEO d'Optimis Construction, et Ariane Commun, CEO, cofondatrice de La Solive. À très bientôt sur Bâti Radio.
Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment
sur Bâti Radio.